Football Club Littéraire. L'émission On pense le foot. Le beau geste et le partage des émotions sont au cœur de l'organisation et de l'appréciation des affrontements dans divers sports. Exposer l'histoire des supporters suppose de commencer par saisir cette évolution des sensibilités. Bonjour à toutes et à tous, amateurs, amatrices de ballon rond ou non, je suis ravi d'être dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8 pour notre rendez-vous Football Club Littéraire, afin de vous présenter le sport en littérature pour démocratiser au monde un domaine complexe. Je suis Rémi Kilédian et je souhaite transmettre ma passion, le football à travers la littérature, en vue de traverser les époques, de comprendre le monde et surtout vibrer et évoquer ce qui fait l'essence même de ce sport, les émotions ressenties grâce au ballon rond. Nous nous retrouvons pour découvrir un essai de Ludovic Lestrolin. Enseignant-chercheur en sciences sociales et sport à l'Université de Caen-Normandie, un ouvrage s'intitulant « Sociologie des supporters » qui constitue une belle synthèse de ce qu'est un supporter, en nous dévoilant l'origine du mouvement, une définition et surtout les excès tant redoutés par les instances publiques, les dirigeants de clubs, mais aussi nous, observateur du foot. Ce livre a été publié le 27 octobre 2022 aux éditions La Découverte et fait partie de la collection Repères. Ludovic Lestrolin nous aide à comprendre la situation actuelle du supporterisme français. Une analyse sociologique complète pour nous instruire sur les origines du mouvement ultra et sur les groupes de supporters. Tout d'abord, je pense qu'il est important de définir ce qu'est un supporter. Et Ludovic Lestrolin nous propose une définition. Être supporter, c'est d'abord être engagé, c'est-à-dire prendre parti, consacrer du temps et de l'argent, endosser un rôle. C'est aussi prendre le parti pris pour un camp, mobiliser un certain nombre de sentiments et d'émotions, et être dans un cadre collectif dans lequel s'expriment débats et disputes concernant la qualité du soutien. Dans cet essai sociologique, Lestrolin nous apprend que c'est en Angleterre, à l'aide de l'émergence de la culture pop avec les Beatles, comme expliqué dans l'ouvrage, les supporters de Liverpool s'approprient une tribune, entonnent des chants puissants et constants, inspirés de chansons en vogue dont ils adaptent les paroles. C'est la culture dite de cop qui se construit comme cela. Ainsi, lors d'une demi-finale de Ligue des Champions en 1965, Liverpool-Inter Milan, où l'Inter, qui s'était incliné au match aller 3-1 en Angleterre, réussissait l'exploit d'inverser la tendance et se qualifier en finale en l'emportant 3-0 à domicile. Pour terminer cette petite digression, qui peut en valoir une chronique prochainement, puisque le club assure son banc un entraîneur révolutionnaire, Elenio Herrera, et donc l'Inter gagnait sa seconde Coupe des Champions successive face au Benfica Lisbonne 1-0. C'est alors que l'Italie profite pour s'inspirer des supporters de Liverpool et reprend les codes des Cops. Ainsi, de par la participation vocale des supporters dans les stades, on peut voir un rapprochement avec des fans allant assister à un concert de leur groupe favori. Notre enseignant-chercheur dit que cela témoigne de la volonté de peser sur le déroulement et l'issue de la partie. Les groupes de supporters veulent prendre part aux résultats de leur équipe, ils veulent vivre le match et non être un spectateur passif. Pour autant, cela ne signifie pas que la hauteur des engagements pris par le groupe de supporters vaut plus que le spectateur, tout simplement parce que cela reste dans le cœur, l'amour pour le club qui est unique à chacun. Et le style ultra est constamment dans la recherche de spectacularité, comme le décrit bien Ludovic Lestrolin. Tambours, étendards, drapeaux, écharpes, engins pyrotechniques servent à rehausser l'ambiance comme à déplacer le pôle de visibilité du terrain vers les gradins en produisant une forte impression visuelle. En effet, cela crée une forme de concurrence, de compétition entre les groupes de supporters des différents clubs. On peut citer en France les supporters de l'OM avec les South Winners 87, de la SSE et les Magic Fans, le COP 100 et or de Lens, peut-être aussi ceux de l'OL avec les Bad Guns, les BG 87, de par la ferveur qui règne dans le stade ou de par les tifos et banderoles joliment travaillées. C'est alors que les ultras deviennent acteurs. Bien évidemment, on trouve du talent dans beaucoup de tribunes en Europe, que ce soit Dortmund et son mur jaune emblématique, Liverpool avec son You'll Never Walk Alone entonné avec ferveur dans les travées d'Anfield, pour n'en citer que deux. Notre auteur pose une question simple. Que reste-t-il de tels moments d'effervescence ? Une mémoire collective ou anecdote, histoire et partage de souvenirs sur les récits historiques, les moments mythiques du club sont vécus par les supporters et cela se transmet de génération en génération. C'est pourquoi, dans les familles les plus ferventes, il n'y a qu'un seul club et cette passion se lègue de père en fils, de mère en fille. Je vous renvoie à l'autobiographie de Omar Da Fonseca qui en parle très bien. Il y a aussi pour les matchs de sélection nationale, où lorsque la rencontre est vécue avec passion, comme un supporter, la mémoire sera meilleure. Ne souvenez-vous pas d'où vous avez vécu France-Croatie 2018 ? Pour ceux qui sont plus âgés, France-Brésil 98, ou plus récemment, sans remuer le couteau dans la plaie, France-Argentine 2022. Nous voici de retour dans Football Club Littéraire sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8. L'interlude que vous venez d'écouter est l'hymne du FC Barcelone, chanté à chaque début de match à l'entrée des joueurs. Bon, après le beau portrait dressé sur les supporters, il faut bien aborder le sujet épineux. Le cœur de la problématique et des polémiques traversant l'histoire, restant malheureusement active à l'heure d'aujourd'hui et surtout en France. Au commencement, c'est chez les Britanniques que la question est étudiée. Van Plou, historien, théorise les incidents dans les stades par différents facteurs. Frustration, délinquance, protestation, revendication, confrontation notamment entre clubs et supporters, ainsi que débordements liés aux résultats. La violence est alors surtout réactive. Ceci serait plutôt lié au groupe ultra, fan de football, et par excès de passion, cela déborderait. Mais il y a le cas des hooligans, où la violence n'a aucun prétexte. C'est leur passion, le football, le combat, les émotions fortes. On trouve plusieurs courants, en caricaturant. Ceux qui ne veulent se battre qu'en jour de match, et d'autres où cela dépasse clairement le foot et se donnent rendez-vous pour se battre, avec pour objectif surtout d'humilier et soumettre le supporter adverse. Le hooliganisme serait ainsi une forme de résistance symbolique des fractions exclues de la classe ouvrière face à l'embourgeoisement de leur sport. Mais cependant, il manque de recherches claires pour définir ce qu'est le hooliganisme. Et pour revenir à l'actualité dans le football français, nous comprenons les débordements parce que les supporters veulent faire partie intégrante du club, souhaitent avoir leur mot à dire sur la politique sportive prise par le club. Le mouvement Ultra s'organise souvent en développant une association autogérée où il y a une négociation des réductions sur le prix des places par exemple, des affrètements de trains spéciaux pour les déplacements, la création d'un journal concernant la vie du club et du groupe de supporters. Si l'on en vient au débordement des dernières saisons en Ligue 1, si l'on regarde le contexte, comment les clubs de foot français sont dirigés, nous pouvons comprendre, sans accepter pour autant les actes de violence, mais nous pouvons comprendre les raisons, les motivations des ultras afin de montrer leur mécontentement. En payant chaque semaine leur place, en donnant du temps pour supporter, ils mettent presque leur vie dans le club. Et les dirigeants ne pensent qu'à s'enrichir en mettant notamment le sportif de côté, mais aussi le supporter qui n'est pas souvent entendu. Je vous l'accorde, il y a bien d'autres moyens et non violents pour revendiquer, mais cela montre que le football est le reflet de la société, puisqu'on est en plein dans ce sujet-là autour des manifestations. Malgré tout, il y a des dispositifs récents mis en place pour alléger les tensions dans la relation ultra-club. Le référent supporter, c'est lui qui parle directement au club, qui organise les déplacements des supporters adverses aussi. Parce que le foot ne s'écrit pas qu'avec les pieds, je vous conseille ce petit essai sociologique définissant les supporters à l'origine et son évolution. Une enquête où l'on apprend qu'il manque encore beaucoup de documentation sur le sujet, mais constitue une belle synthèse sur le supporterisme. Parce que le foot se joue aussi avec les mots, le Football Club Littéraire touche à sa fin. Je suis heureux de vous avoir présenté pour cette chronique « Sociologie des supporters » écrite par Ludovic Lestrelin. Voilà, j'ai hâte de vous présenter le prochain livre sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8 et de vous faire découvrir un nouveau pan de ce merveilleux sport. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux à 11h à l'antenne et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Merci à tous et à la prochaine.